ici en Outaouais. Les sujets de l'heure. Entrevue. Éditorial. Jusqu'à 14h, vous écoutez LP le midi.
OK, on commence la deuxième heure en politique, évidemment, avec mon collègue Carl Bélanger. Salut, Carl.
Salut, LP.
Écoute, pas de ministre pour l'Outaouais, finalement, mais un gros poste pour Mona Fortier, qui devient présidente du Conseil du Trésor du Canada.
Oui, donc une belle nomination pour Mona Fortier, qui auparavant, jusqu'à maintenant, était ministre de la prospérité et de la classe moyenne et de tous ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Ministère qui disparaît.
Oui.
Faut croire que...
Ça va bien de ce côté-là.
La classe moyenne a travaillé fort et elle est maintenant prospère. Ouais. Parce que sinon, on continuerait.
Ouais.
Alors,
Oui. Mais on l'avait trouvé bizarre, ce ministère-là.
C'était bidon. C'était un ministère bidon qui ne servait pas à grand-chose autre que faire de la propagande pour l'ambition libérale dont ils étaient investis, là, vraiment de rehausser le niveau de vie de la classe moyenne. Bon, est-ce que c'est maintenant passé date? On passe à autre chose, clairement, parce qu'on abandonne ce ministère. Mais pour Mona Fortier, là, on prend une position clé au gouvernement, au Conseil du Trésor. C'est une fonction très importante et une première, sauf erreur, là, pour une franco-ontarienne d'occuper ce poste-là. Une belle nomination.
Oui, une belle nomination, mais un gros mandat parce que c'est aussi ça, gérer les fonctionnaires fédéraux.
Exact. Et tu gères tous les fonctionnaires et tu gères, entre autres, ce qui s'en vient vendredi.
Oui.
Tout l'aspect suspension possible pour les fonctionnaires qui ne seront pas vaccinés adéquatement dans les prochains jours.
As-tu plus de détails, Carl? Comment ça fonctionne si on demande pas de preuves? Quoi, si un gestionnaire a un doute, il peut demander des preuves et à ce moment-là, il pourrait y avoir des suspensions. J'essaie de comprendre la mécanique et je me demande même si Mme Fortier, malheureusement, là, elle n'était pas disponible pour nous parler aujourd'hui en entrevue, mais elle sera sûrement questionnée là-dessus. Est-ce qu'on va peut-être revoir le processus, resserrer ça un petit peu?
Ou est-ce qu'on devra faire comme le gouvernement du Québec? Et repousser les dates butoirs, hein, comme on l'a vu dans le domaine de la santé.
Oui.
On n'a pas les chiffres présentement. Faut comprendre qu'au fédéral, tout ce qu'on demande, c'est une attestation. On coche une case sur un formulaire Internet. On dit oui, je l'ai eu. Puis là, on est correct. Alors, est-ce que les gestionnaires qui auront des doutes voudront se mettre à enquêter, à demander des preuves? Ou s'ils vont hausser les épaules puis dire, c'est dans le fond, c'est pas bien ben grave. Surtout dans le cas des fonctionnaires qui travaillent à la maison.
Ben oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire... Au fond, là, ça fait un peu bidon comme politique. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de dire, ceux qui viennent travailler au bureau, ça prend le passeport vaccinal, puis on va le vérifier.
Alors là...
Ceux qui sont en télétravail, ben on vous le dit, vous êtes mieux de le faire parce qu'éventuellement, on va vous rappeler...
Accéder à l'édifice,
et voilà.
Pour accéder au bureau, comme un restaurant, comme une salle de spectacle, comme un avion.
Et si un meeting obligatoire en présentiel, mettons, mercredi prochain, puis t'es pas vacciné, ben pour cette journée-là, tu seras suspendu sans solde.
Et voilà. Je pense
ça aurait été plus applicable.
Plus simple d'application et aussi plus transparent, et le fédéral aurait une meilleure connaissance de ses effectifs sans nécessairement se pénaliser soi-même, c'est-à-dire en suspendant des fonctionnaires qui travaillent à la maison et qui rendent leur service, qui font leur travail quand même. Alors, si on ne les amène pas au bureau, et pourquoi on fait ça? Surtout si on ne vérifie pas vraiment. Et l'autre point que je veux amener
ça va être la première patate chaude pour Mme Fortier.
C'est sûr, parce qu'elle devra défendre les décisions qui seront prises. Et qu'est-ce qui arrive si dans un ministère donné, ben c'est pas 5% qui sont suspendus, c'est 15-20%. Je sais pas, là. C'est pas impossible. On les connaît pas, les chiffres. On va les voir dans les prochains jours. Mais je serais pas surpris, content de ralentir le processus. On va donner des sursis, on va donner des chances et on fera pas des enquêtes très approfondies. Sinon, on aurait procédé avec le passeport vaccinal pour accéder aux édifices.
Parlant des fonctionnaires, donc c'est aussi elle qui va devenir là, la négociatrice en chef du gouvernement fédéral là, pour la prochaine convention collective?
C'est elle qui est en charge de tout cela, effectivement. Bon, c'est certain que pour Mona Fortier, il y aura une courbe d'apprentissage. Mais en même temps, ce n'est pas le ministère qui est toujours au devant de la scène. Alors, il y a des procédures qui sont en place. J'espère qu'elle a appris suffisamment dans son rôle de ministre, disons, de communication, parce que c'était un peu ça,
oui,
pour pouvoir s'asseoir à la table avec les syndicats, avec ses employés essentiellement, pour gérer ça, parce que c'est pas nécessairement facile. Et celui qui quitte ce poste-là, Jean-Yves Duclos, a fait un très bon travail à ce niveau-là, avec un homme affable, mais un homme capable. D'ailleurs, il y a une belle promotion, lui s'en va à la santé.
Oui. Oui, alors on verra. Faut dire que, bon, dans le cas des fonctionnaires, pour fermer le dossier, tu sais, les libéraux sont quand même assez généreux habituellement avec les fonctionnaires. C'est pas un gouvernement, c'est pas les conservateurs, là. Ils sont pas en mode confrontation habituellement avec les syndicats, sauf peut-être dans le cas du vaccin, puis encore là...
Dans les marges, hein, puis et tu dis qu'ils traitent bien les fonctionnaires, ou à tout le moins, il y a cette perception-là, contrairement aux conservateurs. Et les fonctionnaires le leur rendent bien, car les comtés, il y a des plus grandes concentrations de fonctionnaires au pays.
Tout à fait.
Ça vote libéral.
On le voit dans l'Outaouais, effectivement. Bon, il y a quand même, là, tu parlais de M. Duclos, c'est quoi, 10 ministres québécois?
Il y a 10 ministres au Québec.
Ça, c'est une réponse, c'est une réplique à François Legault, ça.
C'est, on veut démontrer qu'on est au Québec pour rester. On veut aussi démontrer que le poids politique du Québec ne diminue pas. C'est peut-être en conséquence des chiffres d'Élections Canada qui vont perdre un siège au Québec. Donc, on a 10 ministres, et pas n'importe lequel, là. Ministre des Affaires étrangères, ça va à Mélanie Joly.
Oui.
Ministre de l'Environnement, va à Stephen Guilbeault. C'était attendu depuis longtemps. Et on parlait de
Jean-Yves Duclos. Beaucoup de pression, bien par sûr. Contre, quand tu es un militant environnemental de métier et que tu deviens là, le ministre de l'Environnement.
Ce gars-là s'est fait arrêter pour la cause. Il a eu les menottes autour des poignets pour la cause. Alors maintenant qu'il a les leviers du pouvoir... Il doit livrer la marchandise.
Et s'il livre pas, il va se faire ramasser solide par les activistes.
Et la crédibilité du gouvernement fédéral chutera de manière exponentielle, parce que Stephen Guilbeault est vu comme un symbole et l'espoir qu'enfin le Canada va atteindre ses objectifs.
Peut-il gagner? Je te dirais que c'est comme devenir coach canadien. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter.
C'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter. Il y a eu d'autres exemples dans d'autres pays. Rappelle-toi le chanteur de Midnight Oil, Peter Garrett, qui est devenu ministre de l'Environnement en Australie. Lui, c'était un grand militant pro-environnement, pro-écologie. Et il a fini par se casser les dents parce qu'effectivement, la machine gouvernementale et tous les tenants, les aboutissants d'une économie amènent le gouvernement à faire des choix qui ne sont pas nécessairement très, très écologiques.
Oui, l'idéaliste devient réaliste une fois ministre. Là, c'est pas un poème, là, mais c'est ça quand même.
Ça sonne
là.
Bien.
Oui.
Ça sonne bien. Et là, notre nouveau ministre de l'Environnement devra défendre la position de son gouvernement, qui est la suivante. Quand on parle du pipeline Trans Mountain, que le gouvernement du Canada a acheté pour presque 5 milliards de dollars, ben est-ce que ça va vraiment aider à lutter contre les changements climatiques, ce pipeline-là?
Bonne chance, M. Guilbeault.
Oui.
OK, le débat hier, et c'est une chose, mais il y a toujours l'après-débat. Qu'est-ce que tu as le goût de dire 24 heures plus tard, en quelques minutes, Carl?
Je pense que du côté de France Bellil et de son équipe, on est satisfait. On tente à tout le moins d'occuper les tribunes pour dire qu'on a gagné, et on le fait bien. Et si ce n'est pas eux qui l'organisent, on sent quand même que les gens ont aimé la performance de France Bellil.
Et même si c'est eux qui l'organisent, cette perception-là est importante et doublement importante avec le début de semaine de Mme Bellil. Ça a parti sur un mauvais spin, passez-moi l'expression,
oui.
Avec l'histoire du climat de travail à Tourisme Outaouais. Alors que là, on lit et on entend beaucoup de commentaires positifs à la suite de sa performance au débat sur nos zones hier midi.
Et effectivement, il y a un bémol cependant à apporter. Elle a toujours cette épine dans le pied qui est son refus de déposer un cadre financier. Et pendant le débat, on l'a vu, Jean-François Leblanc et Maude Marquis-Bissonnette s'en donnaient à cœur joie pour lui rappeler que ses chiffres étaient sortis d'un peu n'importe où.
Elle a pris l'engagement de le faire d'ici la
fin
de la campagne.
Alors on verra. Ben, ça commence à se faire tard un peu dans ce dossier-là.
Oui.
Ceci dit, c'était un bon débat et c'était intéressant de voir la première partie qui a vraiment été, d'après moi, la meilleure au niveau des échanges sur la taxation, où la candidate qui propose la plus forte hausse de taxes, Maude Marquis-Bissonnette...
n'a pas été attaquée.
Pas du tout. Pas du tout.
Oui.
Et elle... ça
c'est comme un peu le monde à l'envers.
Ça faisait son affaire à Maude Marquis-Bissonnette.
Oui.
Elle regardait ses deux adversaires se déchirer sur la question des taxes et elle était au-dessus de la mêlée sans devoir défendre cette hausse plus importante. Alors, à mon avis, elle est sortie gagnante de cet échange, et quand elle est rentrée dans le débat... sur cette question-là, ben là, c'est mis à miner la crédibilité de France Bélisle sur le cadre financier. Alors, elle s'en est très bien sortie. C'est un choix tactique intéressant et aussi un choix tactique intéressant pour France Bélisle.
Mais pourquoi tu penses qu'on ne l'a pas attaqué, Carl?
Ben, je pense que France Bélisle voulait vraiment s'en prendre à Jean-François Leblanc pour tenter...
De gruger des appuis, là. De convaincre les gens que l'alternative d'Action Gatineau, c'est bel et bien moi, France Bélisle, et non Jean-François Leblanc.
Et donc, on voulait aller chercher ces électeurs-là en y allant d'une attaque. Plutôt que de devenir la candidate anti-Action Gatineau, on voulait vraiment rassembler puis aller chercher ces gens-là. Du côté de Maud Marquis-Bissonnette, ben, ça fait son affaire de voir les deux indépendants se déchirer, parce que on parle pas nécessairement au même monde. Tu comprends?
Exact.
Les électeurs qui regardent Action Gatineau ne regardent pas nécessairement Jean-François Leblanc. C'est pas l'alternative. Alors, Maud Marquis-Bissonnette là, préférait s'en tenir à un silence, disons, avec un petit sourire en coin, je te dirais, dans la chaise.
J'ai trouvé qu'il y a eu une occasion ratée d'attaque et peut-être même de knock-out de la part de Leblanc et Bélisle envers Maud Marquis-Bissonnette sur le dossier de l'environnement. Quand Mme Bélisle nous annonce hier que le ministère de l'Environnement s'en vient sur le site Cook dans les prochains jours, faut rappeler que Maud Marquis-Bissonnette, c'est la présidente de la Commission de l'Environnement, mais c'est Audrey Bureau qui a demandé une intervention du ministère de l'Environnement. Il me semble qu'il y avait une occasion de lui dire que pourquoi c'est pas vous qui l'avez demandé? Ben, c'est parce que vous voulez protéger votre parti avant de protéger les citoyens. Je trouve qu'il y aurait eu une belle opportunité d'attaquer, là, Carl.
Il y a eu des attaques, mais elle n'a peut-être pas porté autant qu'elles auraient pu, et tu viens de montrer un exemple, de démontrer un exemple sur cette question-là.
C'est facile à dire le lendemain, c'est remarque sûr, bien, ça va vite dans un débat. Penser, là,
oui. Pis, ils ont des stratégies puis des plans d'attaque, puis l'attaque clairement de France Bélisle, c'était sur le ministère débarque, puis vous le savez même pas, puis j'en sais plus que vous, puis comment c'est que vous êtes pas au courant, puis vous vous cachez derrière l'exécutif. Ce sont des attaques qui portent. C'était les moins bons moments de Maud Marquis-Bissonnette, mais elle était prête, et son plan de match, c'était de parler de son plan climat. Et elle partait la cassette. Elle partait,
ah oui, hein, solide.
Elle partait la cassette, elle était sur le message.
On joue la trappe puis on part la cassette.
Et on voyait là la préparation de France Bélisle qui est entourée d'un parti politique. Elle était prête pour ce débat.
De Maud Marquis-Bissonnette.
De Maud Marquis-Bissonnette, oh oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit?
France Bélisle.
Non, c'est Maud Marquis-Bissonnette, évidemment, entourée d'un parti politique. Et on voyait que Maud Marquis-Bissonnette, malgré... Elle avait un petit peu enrhumée peut-être, hein? Elle se sentait pas bien, mais elle était prête. Et lorsqu'elle entendait le mot-clé, elle pesait sur le piton, ça partait et ça sortait quand même bien en ignorant la question de fond.
Tout à fait. Ce qu'on fait souvent dans un débat, parce qu'on veut placer ses lignes.
Ça fait partie du jeu. Et ceci dit, mon chapeau à toi, à l'animation, il n'y a pas eu trop de gens qui parlaient un par-dessus l'autre. T'as bien géré ça, t'as bien géré le trafic, comme on dit. Et les candidats ont été disciplinés, hein? Ils s'imposaient le temps requis, le 30 secondes, ils s'en
tenaient à ça. Oui, ça s'est fait quand même dans le respect.
Et ça a donné un débat intéressant pour les auditeurs, d'après moi.
Ben, merci beaucoup, Carl. Excellent travail, bonne fin de journée. On t'écoute demain matin.
Demain matin, 5h30.
Et on se reparle, évidemment, demain midi.
Certainement.